Mondial Sport,
RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mondial Sport, tous les exploits aux quatre coins du globe. Force est de constater que sur ce globe, peu de pays rivalisent avec l'Italie. Pas de Dolce Vita pour autant ce dimanche dans notre émission. Le Tour de France a pris son départ dans la botte cette année. Deuxième étape ce dimanche et deuxième victoire française. Tout un symbole, mais ce voyage en Italie, c'est aussi, pour nous comme pour vous, une belle occasion pour rendre hommage aux champions du passé. L'ombre d'un certain Marco Pantani, mais pas que, plane sur ce week-end à Rome, ou plutôt aux arômes de Giro. De l'ambiance sur le bord des routes, de l'ambiance sur la deuxième étape d'un Tour de France au Fauser de Giro, de Tour d'Italie, le temps de ses trois premiers chapitres. Arrivé à Bologne ce dimanche, toujours dans le nord de la botte de l'Italie, Bologne, ville de Ligue des Champions en football, la saison prochaine, ville étudiante, ville qui a donné son nom au plus célèbre plat de pâtes du monde. Voilà pour la culture. Quant au sport sur RFI, eh bien, le tour se vit dans la roue de Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial sur la Grande Boucle. Bonjour Thomas.
Bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Et comme le cyclisme est un sport collectif, vous avez décidé de vous appuyer sur le travail d'un précieux partenaire aujourd'hui, Pierre Carré. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Thomas, vous faites les présentations s'il vous plaît.
Pierre Carré, en quelques mots, comment le vous décrire, Pierre?
Qu'on
journaliste,
a entendu régulièrement
spécialiste,
sur RFI.
On peut dire de spécialiste de cyclisme dans le monde entier, on peut le dire. Vous avez parcouru les routes du Tour de France à de nombreuses reprises, mais pas seulement le Tour du Rwanda, la Tropicale Missa Bongo,
oui,
que connaissent bien nos auditeurs.
Oui, l'Afrique. Puis j'ai écrit il y a quelques années un livre consacré au Tour d'Italie, qui était la première biographie en français sur cette épreuve déjà ancienne, hein, qui a été créé en 1909. Là, on est un peu dans le télescopage Tour de France, Tour d'Italie, les deux. Et on a une entame de Tour de France qui est proprement incroyable.
Le résumé de l'étape du jour, justement la deuxième, donc dans cette entame de Tour de France, Thomas et Pierre. La victoire d'un Français hier pour la première en Italie, Romain Bardet. Et aujourd'hui, eh bien, de nouveau un Français qui s'impose. Vous nous racontez tout ça ?
Un Français qui s'appelle Kevin Vauclin, il a 23 ans, jeune coureur normand. On parlait hier de la victoire et du maillot jaune de Romain Bardet pour son dernier Tour de France. Lui, il découvre, Kevin Vauclin, les routes de la Grande Boucle, les routes italiennes pour l'instant de la Grande Boucle, sur cette étape en forme un petit peu de classique belge presque, avec ces petites ascensions qui se succèdent dans le final, ce circuit autour de Bologne et notamment la côte de San Luca, dans laquelle Kevin Vauclin a fait la différence par rapport à ses coéquipiers, à ses compagnons plutôt, d'échapper pour s'imposer tout seul à Bologne comme un grand. Une victoire, Pierre, d'un coureur qu'on commence à découvrir depuis plusieurs saisons, qui est un des grands talents français, un coureur complet aussi.
Oui, c'est une valeur sûre du cyclisme français. Son nom peut-être encore ne parle pas à tout le monde, puisque vous l'avez dit Thomas, c'est son premier Tour de France. Et en réalité, c'est un coureur qui vient de la piste, qui était très bon dans cet exercice, la poursuite par équipe. Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités pour rouler vraiment vite. C'est un coureur qui, de manière naturelle, a basculé vers le contre-la-montre et ensuite vers la montagne. Et on s'est dit, tiens, on tient peut-être un futur, vous savez, hein, il faut toujours rêver un petit peu, un futur vainqueur français du Tour de France. En tout cas, c'est un coureur normalement pour le classement général. Sauf que hier, l'étape a été marquée par une chaleur écrasante et qu'il a perdu du temps. Et ça lui a servi aujourd'hui parce qu'il a pu aller en échapper et enfin gagner cette étape. Donc première pour lui, pour sa carrière, mais aussi la première victoire pour son équipe. Et en tout cas la deuxième pour un coureur français.
Et deux victoires françaises pour commencer ce tour, Thomas et Pierre. La victoire française tout court, on va dire, en jaune sur les Champs-Élysées, sur le Tour de France, ça remonte. Peut-être vous l'avez en tête, mais ça remonte à
85
Bernard Hinault.
Bernard Hinault, exactement. Voilà, les connaisseurs. C'était un test, Pierre Carré, vous l'avez passé avec brio. Deux victoires françaises d'étape, hein, pour commencer ce Tour de France. C'est exceptionnel pour un cyclisme français, donc on a bien compris, hein, qui se cherche des champions depuis pas mal de temps, pratiquement 40 ans maintenant.
Ouais, alors là, c'est encore plus vieux. Deux victoires françaises et deux premiers jours, c'est 1968. C'était le même coureur d'ailleurs qui avait gagné les deux. Il s'appelait Charlie Grosscott. C'était un Alsacien. Vous voyez qu'on est quand même dans un scénario qui est pas habituel. Alors, on a deux Français qui gagnent en deux jours. Et par ailleurs, on a deux baroudeurs. C'est-à-dire cette catégorie de coureurs très particulière. Normalement, ils sont pas grimpeurs, ils sont pas sprinteurs, ils sont pas rouleurs. Par contre, ils partent en échappée.
Alors, concernant les favoris, pas sûr que la belle histoire française se poursuive jusqu'au bout concernant le classement général. Thomas de Saint-Léger, vous nous aviez annoncé un lancement des hostilités, si je puis dire, du côté des favoris pour cette deuxième étape. Qu'en a-t-il été ? Est-ce qu'ils ont lancé, quelque part, leur Tour de France, les Vingegaard et compagnie ?
Un peu tard, oui, mais ils l'ont bien lancé. C'est Pogacar qui a allumé la première mèche dans la dernière ascension de cette côte de San Luca qu'on vous présentait tout à l'heure, qui est une ascension redoutable avec des pourcentages proches des 20% à certains endroits. Pogacar qui, assez curieusement, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, a attendu vraiment la fin de cette étape et de cette ascension pour planter sa première flèche. Et tout de suite, dans sa roue, a surgi Jonas Vingegaard, le duel annoncé, le duel attendu, le duel d'ailleurs de ces trois dernières années se reproduit déjà. Les deux informations importantes de la journée suite à cette étape et suite à cette attaque de Pogacar, c'est d'abord que le Slovène, il faut le dire, a pris le maillot jaune ce soir à Bologne. L'empereur romain rend ses lauriers pour pas grand chose, Romain Bardet, seulement à 6 secondes désormais au classement général, mais avec ce petit trou, Pogacar a pris le maillot jaune. Et l'autre enseigne important, c'est que Vingegaard, Pierre Carré, lui a répondu. Il y avait une énorme inconnue sur la forme du Danois. On rappelle, pour ceux qui auraient loupé les précédents épisodes, il est tombé très lourdement il y a 3 mois. Il n'a plus couru depuis. Et là, on le retrouve presque comme si de rien n'était.
Ah oui, il y avait beaucoup d'interrogations entourant l'état de santé et de forme de Jonas Vingegaard. 4 avril, on est sur une route du Pays Basque espagnol. Il chute, il se fait un pneumothorax quand même, c'est sérieux. Et puis, beaucoup de côtes cassées, vertèbres cassées. On se demandait où il en était. Il s'était entraîné en France, à Tignes, dans les Alpes. Et on ne savait pas s'il était capable de répondre à une attaque de Pogacar. D'ailleurs, il a été malin aujourd'hui, Vingegaard, parce qu'il a fait rouler ses équipiers, mais pas trop vite. C'est-à-dire à un train, dans la côte notamment de San Luca, à un train qui faisait qu'il pouvait suivre et surtout il ne perdait pas ses équipiers sous la violence de leur propre effort. Ça lui permettait de garder du monde autour et en tout cas de ne pas s'exposer. Sauf qu'au moment où Pogacar a planté son attaque, il a répondu tout de suite. Et on a vu qu'il a fait plus que ça. Il s'est placé devant lui dans la descente. Il voulait reprendre aussi. On était dans un début de duel psychologique quand même aujourd'hui. Qu'on retrouvait, mais qu'on n'était pas sûr d'avoir cette année, une nouvelle fois. On est bien parti.
Voilà, il lui a montré, je suis là et tu vas avoir affaire à moi pendant 3 semaines. C'est un peu le message envoyé, Hugo, par Vingegaard aujourd'hui. Nous, on s'en lèche les babines. Avoir un duel, c'est toujours mieux qu'un coureur qui écrase toute la course.
Duel au soleil.
Il y a un troisième coureur derrière.
Ah oui, vous pensez qu'il y a un troisième larron
qu'on attendait ? Ah oui, écoutez, aujourd'hui, il était lui aussi plutôt aux avant-postes. Il faisait très attention à ce que pouvait sur la route produire comme effort tant Vingegaard que Pogacar. Donc finalement, les favoris sont... Ils ont laissé faire quand même l'échappée. Il faut dire que Vauclin a beaucoup profité de ça, tant mieux pour lui. Et puis il a eu quand même la force, le courage, l'audace d'aller jusqu'au bout. Mais finalement, quand des échappés gagnent, vous savez, c'est cette vieille règle dans le vélo, c'est pas eux qui décident, c'est le peloton qui décide. Et ce sont les favoris, les leaders qui décident si une échappée part ou part pas, avec qui, à l'intérieur, quel coureur, et puis si elle va au bout. Parce que vous savez, si Pogacar ou Vingegaard avaient décidé de faire rouler leurs troupes, ils n'en faisaient qu'une bouchée. Donc ça veut dire aussi que les grands leaders aiment cette configuration dans laquelle ils ne produisent pas un effort excessif en tête de peloton pour contrôler la course, ils maintiennent un écart raisonnable, et puis il faut dire quand même qu'ils offrent aux spectateurs un récit magnifique. C'est-à-dire, on dit parfois le vélo, c'est les grands qui gagnent tout, qui écrasent tout, mais là, ils montrent le contraire, ils montrent qu'ils sont capables de faire des petits cadeaux, qui sont gros, parce qu'un cadeau comme ça offert à Bardet hier ou à Vauclin aujourd'hui, c'est magnifique. Quand je dis cadeau, c'est pas dans les 10 derniers kilomètres que ça se passe. Là, il y a effectivement une sorte de mano à mano entre l'échappée, le peloton, l'échappée, les coureurs qui reviennent derrière. Ça se joue beaucoup plus tôt dans l'étape. En fait, s'ils n'avaient pas voulu que Vauclin gagne ou un coureur de l'échappée, Vingegaard et Pogacar auraient maintenu un écart tout petit, à 2 minutes, sûrement pas à 9 minutes. Donc, merci à Pogacar de laisser vivre des coureurs, entre guillemets, je dis petits coureurs, hein, c'est avec beaucoup de respect. Et on l'a dit tout à l'heure, en plus, Vauclin est un futur grand, probablement. Mais merci à eux de les laisser exister. Et puis, bravo aux coureurs qui, après, sont quand même capables, avec leurs jambes et leurs tripes, d'aller au bout.
Et merci et bravo à vous, Pierre Carré. Vous nous racontez ça si bien en compagnie de Thomas de Saint-Léger, en direct de Bologne, sur l'arrivée de la deuxième étape du Tour de France. Qu'on est bien avec vous, messieurs, dans Mondial Sport. On voyage en Italie ce dimanche.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. C'est le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catimini et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et voir à la grève tombe un entrepôt du Grand Paris quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit,
Club voyageant en Italie dans Mondial Sport sur RFI, l'Italie, pays hôte du début du Tour de France cette année. L'Italie, autre grand pays de cyclisme et de grand tour. Un départ dans la botte, c'est une grande première pour la grande boucle. Thomas de Saint-Léger, Pierre Carré, vous êtes en direct de Bologne. Ce crossover, comme on dit dans d'autres sports, une alliance de circonstances, quelque part, entre les deux organisateurs, les deux pays organisateurs des deux plus grands tours. J'imagine que ça a fait rêver, fantasmer les fans de vélo. Mais c'est aussi l'occasion, je ne sais pas ce que vous en pensez, de jouer au jeu un peu des sept différences. Thomas, vous me confirmez, Pierre Carré est peut-être trop modeste pour le faire, qu'il connaît, Pierre Carré, le cyclisme italien mieux que personne. Il connaît aussi très bien le cyclisme français. Là, c'est peut-être l'occasion de voir un petit peu ce que ces pays de vélo ont en commun et ce qu'ils ont de différent dans leur manière de vivre leur passion pour la petite reine.
Tout est différent. Et justement, on se dit, mais c'est drôle quand même de voir. Il y a eu des arrivées, hein, du Giro à Bologne. Et ça n'a rien à voir. Parce que, bon, le Giro, c'est une course qui se déroule au printemps, au mois de mai. Donc, souvent confrontée aux premières grandes chaleurs de l'année. Ou bien, surtout, à la grêle, à la neige, à des tempêtes. C'est une course qui se déroule à un moment où les gens ne sont pas en vacances, alors que là, nous avons fait hier la grande route entre la capitale de la Toscane, Florence et puis Rimini, station balnéaire. D'ailleurs, il n'y avait pas que les coureurs qui allaient à Rimini, il y avait tous les Italiens qui voulaient se rendre à la plage. Et donc là, on est vraiment dans une Italie qui est différente, on est dans une lumière qui est différente aussi. Ça ne donne pas les mêmes photos, ça ne donne pas les mêmes images télévisées. Le public n'est pas forcément partout, beaucoup plus nombreux, parce que c'est le Tour de France. Le Giro, c'est une course ancienne aussi, qui est très ancrée. On l'a dit, elle a été créée en 1909. Et le Giro a toujours voulu quand même magnifier l'Italie, passer vraiment très près des monuments, imbriquer la culture avec le sport. Là où le Tour de France est... parfois se dit, mais nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est déjà un événement très grand, on n'a pas besoin de passer dans des lieux de prestige.
C'est une plus grande course, le Tour de France. C'est une plus grande course au niveau sportif.
Plus grande.
Oui, plus grand que
le
Giro.
Plus grande, oui.
Il n'y a pas de concurrence, vraiment.
Maintenant, est-ce que c'est la plus belle? Est-ce que c'est la plus belle?
C'est le sous-titre, Pierre, je crois, de votre livre. La Giro, la plus belle course du monde dans le plus beau pays du monde.
Oui, c'était en réalité le slogan à l'époque du précédent organisateur. Ils avaient trouvé cette idée-là. Ils s'étaient dit, mais nous, on ne va jamais arriver à être... Parce que, vous savez, on dit quand même que le Tour de France est le plus grand événement sportif derrière les Jeux Olympiques et le Mondial de foot. Donc, bon, comment on fait, nous, pour exister? Alors, justement, on va montrer aux gens l'Italie profonde. On va aller vers la mer. Et puis, ils ont inauguré des formats différents aussi. C'est quand même eux, les premiers bien avant le Tour de France, qui ont essayé par exemple le prologue, qui ont essayé la dernière étape courue en circuit. Bon, maintenant, il y a ça sur les Champs-Élysées à Paris. C'est eux aussi qui ont essayé le contre-la-montre en côte. Ils ont toujours eu ce temps d'avance, cette innovation. Puis alors, je ne vous parle même pas de choses complètement folles. Par exemple, un contre-la-montre sur les canaux de Venise. Attention, il valait mieux pas rater un virage parce que vous faisiez en même temps vélo et puis natation. C'est le Giro, ça. Le Tour est un peu plus classique, un peu plus sage. Mais on sent quand même la puissance du Tour. Et ce n'est pas pour rien que les politiques ici ont voulu que le Tour de France vienne. Ils savaient, ils ont signé un chèque au Tour de France qu'ils n'auraient jamais voulu donner aux organisateurs du Tour d'Italie.
Mais alors justement, Pierre Carré et Thomas de Saint-Léger, on imagine que du côté des organisateurs du Tour d'Italie, on doit regarder ça d'un œil un peu étrange. Donc notre propre pays préfère accueillir... entre guillemets, le cours concurrent du voisin au nord
mais
des Alpes.
Plus d'argent,
plutôt
en tout cas.
Les Italiens préfèrent le tour des voisins plutôt que notre propre tour. Est-ce qu'il y a eu des déclarations ou voilà, des manifestations d'agacement du côté des organisateurs du Giro? Vous avez vu ça?
Alors, ils sont très discrets, mais en réalité, ils sont furieux, bien sûr, parce que ici, les différentes collectivités ont versé l'équivalent de 10 millions d'euros. ASO a essayé de leur faire un petit cadeau, leur a dit...
ASO, l'organisateur du Tour de France.
Oui. Absolument, ASO, l'organisateur du Tour de France, a dit aux organisateurs de Tour d'Italie, écoutez, on va trouver un petit arrangement, on va vous donner quelques milliers d'euros, puis vous allez vous occuper de la paperasse, des déclarations administratives auprès de la préfecture, etc. Bon, c'est vraiment les miettes du gâteau. Le gros gâteau, c'est le Tour de France.
Et au niveau du public, Thomas, Pierre, est-ce que c'est le même public pour le cyclisme en Italie qu'en France? Est-ce que le vélo a la même place, on va dire, dans l'imaginaire des fans de sport et du public de ces deux pays?
Je pense que sur un Tour de France, c'est difficile de comparer les publics parce que vous avez un public de Tour de France. Peu importe où vous vous trouvez, vous avez des gens, comme le rappelait Pierre, qui sont en vacances. C'est une chose, qui ne sont pas forcément tous des connaisseurs, mais le Tour vient chez eux, vient là où ils passent leurs vacances. Donc ils veulent évidemment assister à cet événement extraordinaire, voir tout ce barnum plus que le peloton et les coureurs. Parfois, c'est la caravane, c'est le bruit, les véhicules, tout ce qui entoure. Le Tour de France crée quelque chose d'assez extraordinaire dans chaque ville dans laquelle il se rend. Donc, sur le Tour de France, vous avez beaucoup de monde, toujours, cette chaleur du public, cette chaleur dans l'air également. Donc, on ne voit pas réellement quelque chose de différent. En revanche, et là, Pierre sera beaucoup plus précis, en général, le public italien est réputé pour être un public de connaisseurs beaucoup plus que le public français.
Connaisseurs et donc évidemment passionnés et évidemment aussi dans l'excès. On leur a trouvé un mot, on a inventé un mot pour ça, c'est tifosi. Tifosi, les tifosi italiens, on en parle aussi en football, je pense, mais en vélo,
football
les tifosi.
En Formule 1 aussi, oui, on en parle effectivement. C'est le
mot vient de tifus. Le mot vient typhus, la maladie, parce que c'est une maladie qui provoque des spasmes. Et on se dit, mais parfois, les tifosis sont tellement bouillants d'énergie, d'engagement pour les coureurs qu'ils soutiennent, qu'on dirait qu'ils ont le typhus. C'est là que ça vient, tifosis. Ils étaient parfois tellement investis dans la course que, vous savez, à une certaine époque, je pense aux années 50, ils faisaient venir des bus entiers avec les supporters de tel ou tel coureur. Ils garaient le bus dans un col, des Alpes, des Dolomites, et ensuite, à tour de rôle, ils se relayaient, ils faisaient une chaîne humaine pour pousser leur coureur dans le col, si bien que le coureur ne mettait pas un coup de pédale en montagne. Ça, c'était vraiment, à un moment donné, on se dit que les supporters italiens, on aurait dû leur donner un dossard. Ils faisaient partie de la course.
Bon, avant de reparler du Giro et des supporters italiens en matière de cyclisme, on va parler, messieurs, je vais vous laisser reprendre un petit peu vos esprits, pourquoi pas vous désaltérer un petit peu et reposer votre verve, qui est vraiment très agréable, Pierre Carré. On va parler de football, et là, malheureusement, il n'y a plus de supporters italiens du côté de l'Euro en Allemagne. L'Italie, tenant du titre, vient d'être éjectée, mais il y a d'autres choses à vous dire sur cette compétition.
Mondial Sport, Radio France Internationale,
Hugo Moissonnier.
Plus d'Italie à l'Euro, la France, elle, s'apprête à défier la Belgique, ce sera demain, la Belgique contre voisin, autre pays de cyclisme, huitième de finale de l'Euro du Championnat d'Europe à suivre demain du côté de Düsseldorf. Et comme en vélo, France-Belgique, on peut parler de classiques, de voisins qui aiment se taquiner, notamment depuis la demi-finale de Coupe du Monde remportée par une France assez clinique, voire cynique en 2018. En 2024, les Bleus cherchent encore leur formule magique. Quant aux Belges, eux, ils sont dans une situation qui semble encore plus compliquée, avec pas mal de rebondissements, autant que dans une bonne BD belge, Antoine Grandi.
Qui c'est qui t'acclaira ? Mbappé au tibia ?
Onana ! Amadou Onana !
Une mauvaise histoire belge. Une vidéo humoristique diffusée sur le compte des Diables Rouges et depuis supprimée. Amadou Onana, le milieu de terrain natif de Dakar, y apparaît à l'entrée du camp de base en compagnie de l'humoriste Pablo Andrés dans un florilège de jeux de mots moyens.
Kinéma ? Allez voir le dernier film de Kiné Reeves.
C'est une blague de kiné.
Un humour potache, pas du goût de tout le monde. La fédération belge a présenté ses excuses, regrettant que la vidéo n'ait pas été comprise.
Bon, c'est incroyable ce qui m'a arrivé. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire.
Un nouvel épisode de la préparation mouvementée des Diables Rouges, hué par leurs propres supporters à Stuttgart après le nul 0-0 face à l'Ukraine, qui actait pourtant la qualification pour les huitièmes de finale. Des réactions pas forcément admises par Thomas Meunier, le latéral des Diables et ancien du Paris Saint-Germain.
L'objectif principal était tout de même la qualification. Il ne faudrait pas l'oublier, on n'a pas fini dernier de groupe. Certes, au niveau de la manière, des occasions, etc., il y aura toujours quelque chose à dire. On est bien d'accord que tout n'était pas parfait, mais on ne joue pas un match de football pour viser le nul ou finir troisième ou finir deuxième. On joue toujours pour finir premier. On a un groupe très ambitieux. Enfin, vous verriez le niveau des entraînements, des sessions. Très honnêtement, ces dernières années, j'ai rarement vu autant de qualité et autant d'envie et d'enthousiasme. Et oui, c'est frustrant. Et oui, certes, moi aussi, j'aimerais qu'on gagne tous nos matchs trop au 4-0 et qu'on mette vraiment un statement pour prévenir que jouer la Belgique n'est jamais un cadeau. C'est pas toujours possible. Et je trouve un petit peu dommage les réactions qui sont pour moi disproportionnées.
Un discours que les Diables Rouges voudraient fédérateur au moment d'affronter leur meilleur ennemi récent, les Bleus, qui les ont privés d'une finale de Ligue des Nations en 2021 et surtout d'une finale de Coupe du Monde en 2018. Un souvenir douloureux pour Johan Bakayoko, l'ailier droit de la sélection belge.
Oui, j'ai vu beaucoup de douleur comme tous les Belges et j'ai vu que oui, la Belgique aurait dû gagner, mais ça c'est un autre débat. Et non, je pense que faire partie justement de cette équipe aujourd'hui qui a la chance de rejouer un huitième de finale contre la France, c'est beau pour moi personnellement.
Un petit goût de revanche entre des Français et des Belges qui se connaissent bien. Certains Bleus évoluent en club avec des Diables Rouges à l'image d'Eduardo Camavinga. Mais pour autant, la connexion entre eux reste à parfaire puisque le milieu de terrain du Real a découvert seulement hier pourquoi son partenaire en club Thibaut Courtois n'avait pas été convoqué pour l'Euro. De quoi donner un échange savoureux avec un journaliste belge.
Déjà, je suis content que Thibaut s'est embrouillé avec... Je sais pas, il s'est embrouillé déjà. Il s'est embrouillé ? Ah ouais ? Ils sont dit quoi ? Ils sont dit quoi ?
C'est une longue histoire, je peux te raconter, mais c'est par une histoire de brassard de capitaine qu'il n'a pas reçu à un moment où il le voulait.
Tu m'expliques après. Hein. Qu'il joue pas forcément, c'est une bonne chose pour nous, parce que c'est un très bon gardien. il arrête tout. Donc, qu'il joue pas contre nous, c'est forcément une bonne chose pour nous.
Les Bleus qui feront connaissance avec Koen Castels, le remplaçant de Courtois, qui n'a encaissé qu'un seul but dans cet Euro. Preuve que malgré les histoires belges, les Diables Rouges restent des concurrents sérieux. Antoine Grenier, Düsseldorf, RFI.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu.
Voilà, France-Belgique, 8e de finale de l'Euro à suivre en fil rouge demain sur RFI avec Antoine Grenier, donc dans Radio Foot International. Rendez-vous 18h10 temps universel. En attendant toujours dans l'Euro de football, l'Angleterre affronte la Slovaquie. 36e minute de jeu et une petite sensation puisque la Slovaquie pour l'instant mène 1-0 face aux 3 Lions, largement favoris de cet Euro en compagnie des Bleus notamment. Et puis ce soir, un autre favori, l'Espagne, sera sur les terrains face à la surprise de ce tournoi, la Géorgie. Coup d'envoi 19h, temps universel.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Armstrong est en train de produire son effort, c'est incroyable. Plus il se rapproche du galibier et plus il accélère, c'est vraiment prodigieux.
Ah oui, là, c'est remarquable ce qu'il est en train de faire, Armstrong, là.
Oui, et dire qu'il y a 2 ans, le donner presque mort, atteint d'un cancer, vraiment, quelle magnifique revanche sur la vie. Hein.
Patrick.
Oui, Jean-Paul Olivier avec la moto numéro 2.
Marco Pantani revient sur Armstrong.
Oh là 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 là.
Il est à 30 secondes, il va très vite.
30 secondes, Pantani, ça, alors ça, c'est une surprise.
Ah oui, dites donc, il va très très vite. Là, Pantani, il suce la roue d'Armstrong, hein, il va le sauter, c'est fait.
C'est formidable là, ce
qu'il fait. Marco Pantani qui même a eu la gentillesse de prendre en stop une petite fille qui a perdu ses parents dans la foule.
Ah, ça c'est extraordinaire, Bernard, quand on pense qu'il y a 5 mois, Pantani était sur le point d'abandonner le vélo.
Ah oui, là c'est remarquable ce qu'il est en train de faire là. C'est une leçon de vélo, hein, là.
Patrick, Richard Virenque vient de s'échapper du groupe Eto. Il est à 1 minute 30 de Pantani.
Alors ça nous fait plaisir, hein. Richard qui revient dans la course.
Ah oui, il l'avait dit, hein, qu'il voulait faire quelque chose aujourd'hui. Il l'avait dit, hein. Il voulait réussir un coup.
Oui.
Ah oui, dis donc, il fait quelque
c'est
chose.
C'est tout Richard,
hein, là,
ça. Richard Virenque a rejoué Pantani. Ça, c'est extraordinaire. Quelle course, vraiment.
Il est même en train de tracter une Caravelaire 5 places, double essieu central, cuisine intégrée, petite douchette à l'arrière et auvent télescopique.
Et dire, Bernard, que ce matin, il avait 42 de fièvre, une sciatique et une pneumonie. Et pourtant, il est là, Richard.
C'est sûr, hein, y a que dans le sport qu'on voit ça, des émotions pareilles.
Patrick,
oui.
Eddy Merckx, oui, vient de sortir du peloton. Il est à 4 minutes de la tête.
Merckx, le Eddy Merckx.
Ben oui, à 55 ans, on ne le donnait pas favori, mais il est là. Tout comme Fausto Coppi, qui lui a pris la roue.
Oh là là.
Comme quoi, le vélo, ça ne s'oublie pas.
Ah oui, j'ai envie de dire, parce que c'est formidable ce qu'on voit, Bernard, là. Il n'y a que dans le vélo qu'on voit ça. Ah ça, il n'y a que dans le vélo. Hein.
Oui, ce matin encore, Fausto était mort depuis 40 ans.
Eh oui.
C'est magnifique ce qu'on voit là, magnifique. Hein. C'est une victoire sur lui-même.
Et sur la vie, Bernard, et sur la vie.
Ça a été une course formidable.
Voilà, merci à tous et encore bravo pour le spectacle magnifique que vous nous avez offert. Merci aux équipes de France Télévisions.
Un vieux sketch des Guignols de l'Info, célèbre marionnette satirique de Canal+, un sketch qui ironise sur la complaisance des médias. À l'égard des scandales de dopage sur le Tour de France, avec notamment le squelette de Fausto Coppi capable de pédaler comme un surhomme, ou encore Marco Pantani dans ses œuvres. Marco Pantani qui a rendu l'âme il y a 20 ans à Rimini, ville d'arrivée hier pour la première étape du Tour de France. Pantani né à Cesenatico, ville de départ aujourd'hui, toujours pour le Tour de France. Hommage au grand nom du cyclisme italien à l'occasion du départ dans la botte de la Grande Boucle cette année. Pantani, on va en parler tout à l'heure. En attendant, Thomas de Saint-Léger et Pierre Carré, qui sont avec nous en direct de Bologne. Pierre Carré, quels sont les... et Thomas, évidemment, quelles sont les autres légendes du cyclisme italien qui sont à l'honneur dans ces premiers chapitres italiens du Tour de France cette année?
On en a pas mal, parce qu'en Italie, plus qu'en France, plus que dans d'autres pays, on est très tourné vers l'histoire. C'est le cas ici, quand vous allez dans des villes, vous avez les époques qui se répondent, l'Antiquité romaine, l'époque de la Renaissance, le baroque. Et bien c'est pareil avec le vélo. On est très tourné vers le passé. Le nombre de courses qui portent des noms de champions anciens et même de champions morts, c'est prodigieux. Il existe un mémorial Marco Pantani à vélo. Il existe même une semaine Coppi et Bartali. Tiens, je suis en train de vous donner les les noms. Ben, voilà, en fait, des courses sur lesquelles on lance des coureurs actuels portent le nom des glorieux défunts. C'est dire si ces esprits hantent encore le vélo italien. Alors, on l'a dit, Marco Pantani.
Oui, et Fausto Coppi, par exemple, comment il est présent là, dans ce départ du Tour de France ? Quels sont les symboles ?
Alors, on va lui rendre hommage demain.
D'accord.
On va passer demain par son lieu de naissance et de mort. Hein. Fausto Coppi, lui, c'est le coureur de la guerre, quoi, de l'après-guerre. C'était très important. On était dans une Italie qui avait été évidemment extrêmement marquée par le Second Conflit mondial. Et Coppi, on dit vraiment hein, que c'est au-delà du sport, c'est cette question-là. Coppi a redonné une patine au pays. C'est une question de société. Donc, quand il est mort de manière très, très tragique des suites de la malaria dans le pays qui, à l'époque, s'appelait la Haute-Volta et qu'aujourd'hui, on connaît sous le nom de Burkina, eh bien, Coppi, c'est un drame. Il y a quand même des milliers de personnes qui viennent à son enterrement, comme beaucoup plus tard et dans des circonstances différentes pour Pantani. Donc, Coppi, hier, c'était la grande journée Bartali au départ. Il est natif de Florence.
Alors, Pantani, Florence, ville de départ. Et alors, Bartali, là, on remonte encore un peu plus loin. Coureur marqué
même
par
époque Coppi.
Ouais,
même époque Coppi. Et justement, c'est son meilleur ennemi, c'est son adversaire favori. Et puis, à l'époque, on a beaucoup parlé des deux visages de l'Italie. Parce que dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, il y avait un parti communiste italien très fort. On avait tendance à dire que c'était leur héros était Coppi. Alors qu'il n'était pas du tout communiste, mais quand même, c'est un coureur plus moderne, un peu plus libre, etc. Et puis, Bartali, lui, c'était le coureur vraiment de la démocratie chrétienne, très religieux, qui allait voir le pape et qui le montrait. Donc, finalement, les deux versants de l'Italie, les deux parties du public italien, de la société italienne se retrouvaient tantôt dans un champion tantôt dans l'autre. Ils ont vraiment été, c'est 10 ans d'histoire non pas du vélo, mais 10 ans d'histoire de l'Italie, Coppi et Bartali.
Thomas de Saint-Léger
Puis on a...
Oui, allez-y Pierre Carré.
Non pardon, on en a plein, on a ouais, on a Nencini qui gagne un Tour de France qui est oublié mais qui était sur la route aussi. On a par exemple Fiorenzo Mani aussi qui était un personnage très important de la même époque, Bartali et Coppi. Alors lui c'est important, c'est délicat parce que c'était le visage de l'Italie qui avait collaboré. Alors bon, autant vous dire que on est un peu plus gêné à l'évocation de son souvenir. Et puis en fait c'est ça, on n'en jetait plus la coupe est pleine. On est dans un pays si grand par le vélo et par son passé cycliste que les organisateurs n'y arrivaient pas. Vous rendez compte quand même qu'on leur a proposé de passer à un moment donné dans la cité de Alfredo Binda, le coureur qui a gagné 30 étapes du Giro. Et là, les organisateurs ont dit, mais arrêtez, on ne peut pas rendre visite à tous les grands morts du vélo, là.
Il y a le Panthéon de Rome et puis aussi le Panthéon du cyclisme à travers le parcours du Tour de France. Thomas de Saint-Léger, vous n'êtes pas la bible du cyclisme italien comme l'est Pierre Carré, mais vous débrouillez pas mal et j'imagine que ça vous fait quelque chose, ces hommages aussi pour un fan de cyclisme tout court. C'est pas que l'histoire du cyclisme italien et des champions italiens, c'est aussi l'histoire du vélo, tout simplement, l'histoire universelle du vélo.
Oui, ce sont tous, ces noms cités par Pierre Carré, sont tous des grandes figures qu'on apprend à connaître si on s'intéresse à l'histoire du cyclisme et des coureurs qui, au-delà de leurs exploits sur la route, avaient une aura, quelque chose en plus, Coppi, une élégance tout à fait particulière avec un corps très atypique. On l'appelait le héron, je crois, c'est ça, Pierre, ou en tout cas...
Très maigre.
Voilà, très maigre, le buste assez avancé. Un corps très particulier. Donc oui, des personnages effectivement mythiques comme les amateurs de football pensent à des Coppa pour l'équipe de France. Vous voyez ces générations-là qu'on n'a pas vu jouer, dont on a très peu d'images, mais dont on connaît les légendes qui sont souvent, il faut le dire, magnifiées, même si il y avait à l'époque assez peu de couverture médiatique. La télé n'existait pas forcément. Et on apprend leurs exploits au rythme des chroniques dans les journaux, des chroniques radiophoniques également, et tout cela est souvent un petit peu romantisé, on peut le dire comme ça. Un peu beaucoup. Mais ça fait aussi le charme de l'histoire de ces sports et du cyclisme en particulier.
Et on est content de relayer cette histoire, cette culture dans Mondial Sport ce dimanche, le Tour de France à l'heure italienne. Pardon, juste un petit rappel de palmarès. Bartoli, c'est Tour de France en 38 et
Bartoli
en 48.
Bartoli, c'est un Wimbledon.
Oui, voilà, c'est ça. 38 et 48 pour les Tours de France. Vous êtes d'accord, Pierre Carré? Et copie 49
c'est ça,
et 52.
Ouais, ouais.
1900. Je précise. ça fait presque 100 ans, tout ça. Ça nous fait voyager dans le temps et c'est pas plus mal. On parle de Marco Pantani dans quelques instants. En attendant, notre rendez-vous du dimanche, un billet pour la lumière et pour sa ville.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Au plus près d'athlètes africains qui préparent les JO de Paris, nous retrouvons aujourd'hui Evan Abba-Giro, un escrimeur prêt à tirer, comme on dit en escrime, pour le Niger, dans quelques semaines à peine. Il se met en jambe à travers plusieurs compétitions. Il s'est adjugé le bronze début juin à l'occasion du concours du sabre lors des 22e championnats d'Afrique. C'était au Maroc, à Casablanca. Evan Abba-Giro voulait l'or, mais un Égyptien lui a barré la route.
Quand on va en compétition, c'est toujours pour essayer de revenir avec l'or. Et bon, là, je finis troisième, ce qui est déjà bien. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de déception quand on gagne pas. Mais après, c'est surtout, après, il faut retenir ce qu'il faut retenir de la journée, c'est que j'ai eu des bonnes sensations, que j'ai bien tiré. J'ai notamment éliminé un Tunisien qui est dans le top 16 mondial et que en demi-finale, je m'incline contre... un Égyptien très fort, mais j'ai quand même eu de très bonnes sensations et pour la suite, c'est plutôt pas mal. Non, bien sûr, je ne crains pas de le retrouver au jeu, et même si je le retrouvais, ça serait pour moi la possibilité de prendre ma revanche. Mais après au jeu il y aura beaucoup de monde, enfin beaucoup d'adversaires très très forts. Et après moi voilà, je sais que je suis pas attendu, que j'y vais au jeu plutôt en tant qu'outsider. Et qu'après voilà, c'est à moi de montrer que j'ai les capacités de battre les meilleurs mondiaux et de me faire une place. Et voilà, comme on dit aussi, hein, dans le sport, et je pense que c'est dans tous les sports comme ça, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on perd et on apprend de ses erreurs et on prend de l'expérience. Voilà, du coup, même si je fais une demi-finale, je fais une troisième place, du coup, ça m'a servi, ça me servira dans l'expérience et maintenant je connais mes erreurs contre lui et je saurai comment faire prochainement. À 33 jours des Jeux, la préparation est très dure encore. Là, on est encore sur des grosses semaines où on est encore sur beaucoup de physique et du tactique. Et au niveau mental, on travaille avec les coachs et les préparateurs mentaux afin d'être vraiment prêt pour les Jeux. Mais c'est dur, mais on sait qu'il faut passer par là si on veut aller loin aux Jeux. Pas d'inquiétude. Moi, de toute façon, comme je l'ai dit avant, je vais tout donner. Je me prépare pour les Jeux. Après, voilà, le jour de la compétition, tout est possible. Et on va tout donner.
T'attendais là-haut, les pirates étaient fiers de toi.
Rimini des Vampas, c'était déjà dans Mondial Sport hier. Alors vous allez dire, on manque d'inspiration, un peu comme l'équipe d'Angleterre qui à l'Euro est menée 1-0 à la pause face à la Slovaquie en 8e de finale. Non, nous on a de bonnes raisons pour notre manque d'inspiration. La première étape du Tour de France s'est achevée ce samedi à Rimini, station balnéaire et destination finale dans la vie de Marco Pantani il y a 20 ans en 2004. Et aujourd'hui, le peloton de ce Tour de France a pris le départ à Cesenatico, ville de naissance de celui qu'on surnommait le pirate. Coureur rebelle et romantique, dopé également, il faut le dire, vainqueur du Giro comme du Tour de France la même année, en 1998, idole de nombreux Italiens, venu lui rendre hommage sur la grande boucle ce week-end, à l'image de Pierrot qui a fait de la route lui aussi, alors peut-être pas à vélo, il est venu de Turin pour célébrer le héros au bandana.
Non ti dimenticheremo mai. Io oggi sono venuto.
Sur le livre d'or, j'ai écrit « On ne t'oubliera jamais ». J'ai fait presque 1000 kilomètres pour venir ici le voir, parce que Pantani nous parlait à tous. Quand les gens sur le bord de la route ou devant leur télévision le voyaient attaquer, il se passait quelque chose. Encore aujourd'hui, je regarde sur YouTube des vidéos de ses meilleurs moments et j'ai toujours les frissons. Maintenant, il y a plein de bons coureurs, mais des comme lui, il n'y en a plus. Même Pogacar, c'est un bon, mais... il ne nous donne pas les mêmes émotions.
Anche Pogacar, bravo, ma non emoziona come lui.
Pierrot au micro de Thomas de Saint-Léger. Vous me le confirmez, oui. Thomas, vous êtes en direct de Bologne avec Pierre Carré, spécialiste du cyclisme et notamment du cyclisme italien. Thomas et Pierre, vous comprenez cet engouement autour de Marco Pantani, dont disparu tragiquement, overdose, suicide, c'est encore un petit peu mystérieux, en 2004, tout seul dans cette station balnéaire un petit peu triste que chantent les Vampas. Pantani, le pirate, le bandana, le crâne rasé, le panache, alors oui, aussi le dopage, mais quelque chose d'un romantisme perdu, c'est ce que vous nous racontiez ce matin déjà tous les deux sur l'antenne de RFI.
Oui, alors avant peut-être de le comprendre, on le constate forcément quand on arrive dans cette ville de Cesenatico, vous descendez de la gare et vous avez tout de suite l'espace Pantani, c'est un petit musée, trois pièces très chargées avec tous les trophées, les maillots, les bicyclettes de Marco Pantani, des posters, des photos de Pantani avec le pape de Pantani à moto à peu près dans toutes les situations. Vous avez ce musée, vous avez plusieurs sites hommage également à Marco Pantani, et puis très impressionnant également, la tombe de Marco Pantani, une sorte de mausolée avec en forme de spirale qui rappelle toutes les ascensions de ce champion, de ce pirate qui s'est sabordé il y a 20 ans, Pierre, et qui était beaucoup plus qu'un coureur cycliste, et on l'a entendu dans le témoignage de cet homme tout à l'heure, d'un homme qui parlait à toute l'Italie.
Oui, c'est le champion du peuple, Marco Pantani. Il se trouve ailé, il avait les oreilles décollées, il avait des bras finalement d'un travailleur de force. C'est vrai que ne serait-ce que la physionomie est extrêmement différente de celle de Pogacar, qui est davantage un adolescent qu'un homme révolu, qui a les traits beaucoup plus lisses, beaucoup plus juvéniles, qui est souriant, alors que Pantani était un homme profondément renfrogné, sinon mélancolique, très déprimé par son cyclisme aussi, qui s'est heurté à une montagne qui s'appelait Armstrong et qui était son contraire exact, cynique, alors que Pantani, malgré effectivement son dopage, poursuivait des valeurs assez chevaleresques à travers le vélo, qui a été battu en réalité par Armstrong. C'est le vélo d'Armstrong qui a battu Pantani. Et puis qui termine mal, en fait. C'est ça qui achève son destin, qui en fait un personnage de théâtre, de cinéma, dans lequel les gens se sont identifiés. Il y a bien sûr le sport, on le rappelle, sa victoire dans le Tour de France 1998. Ça faisait longtemps à ce moment-là que l'Italie n'ait pas gagné. Ça faisait depuis 1965. Donc les Italiens étaient très heureux. Ils gagnent en plus. Le vélo, c'est des images. Le sport, c'est beaucoup des images. Il gagne au sommet des deux Alpes, dans les Alpes, comme son nom l'indique, sous un orage. Et la manière qu'il a de lever les bras, en réalité, de façon parallèle à la route, c'est le Christ en croix. C'est comme ça, en tout cas, que les photos l'ont saisi sur la ligne d'arrivée. Et c'est comme ça qu'une partie de l'Italie très pieuse a reçu cette iconographie d'un Pantani champion. C'était déjà à la fois le sauveur, le martyr, c'était le Christ. Et il a terminé dans des conditions... Alors, c'est le roman dans le roman, c'est ce qui prolonge la légende, c'est ce qui crée aussi un inachevé. Il y a des thèses aujourd'hui qui soutiennent que Marco Pantani aurait été assassiné. Bon, la justice ne reconnaît pas du tout cette version. Sa mère, en revanche, est persuadée que Marco a été tué.
Vous l'avez en pleine carrière, il faut le rappeler, il n'avait que 34 ans. Il était tout à fait sur le déclin, mais c'était encore un coureur cycliste à ce moment-là.
C'est ce qui le rapproche de Coppi. Alors, les destins ne sont pas les mêmes. En revanche, la mort prématurée, oui. Et là, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de tragédie, de malédiction dans ce cyclisme italien ? Et vous voyez, ça vient nourrir la légende. Alors lui, il a nourri la légende de son sang, de sa vie. Et c'est aussi la mauvaise conscience du cyclisme. Il y a plein de gens qui ont profité de Pantani, des sponsors, des organisateurs de courses. Ils n'étaient pas là à son enterrement. Parce que finalement, vous savez, ils l'ont utilisé. Puis après, quand il a été exclu pour suspicion de dopage en 1999 sur le Giro, il n'y avait plus personne. Donc, cette idée du champion qui meurt seul, d'abord qui est seul, et ensuite qui meurt seul, c'est une hantise, c'est une honte. On a eu, quelques années plus tard, un coureur pratiquement du même âge que Pantani, pardonnez-moi, qui était Frank Vandenbroek. Et tous ces cas restent comme une tache, une blessure dans le monde du vélo. Et depuis, on est un peu plus vigilant quand même. Quand un cycliste a fauté, à ne pas le laisser terminer de la même façon.
Thomas de Saint-Léger, c'est évidemment difficile de rebondir après cet hommage magnifique dans la voix de Pierre Carré à ce récit incroyable de ce personnage incroyable qui était Pantani.
Qu'on va remercier d'ailleurs parce que vous savez
exactement.
Qu'il a beaucoup de travail.
Effectivement, on va vous remercier
et
Pierre
on va le saluer.
Je crois qu'on a un peu dépassé le temps qui nous était imparti en votre compagnie.
C'était
mais
plaisir.
On ne peut pas vraiment vous quitter quand vous nous parlez de cyclisme italien et pas que comme ça. C'est vraiment un plaisir pour tous les auditeurs et les auditrices et on espère vous revoir, vous réentendre surtout bientôt au micro de Mondial Sport. Rapidement, peut-être Thomas de Saint-Léger, le programme de demain et des prochains jours dans le Tour de France en 30-40 secondes, vous en êtes capable ?
Alors le
votre échappée à vous.
le programme de demain, c'est un sprint vers Turin pour la première étape vraiment plate de ce Giro, avec une explication entre les grosses cuisses, sans doute à l'arrivée à Turin, peut-être Jasper Philipsen qui est le meilleur spécialiste du sprint au monde, qui a remporté énormément d'étapes l'année dernière. Pourquoi pas une surprise ? Pourquoi pas Mark Cavendish pour le record ? Pourquoi pas Binyam Girmay pour la première victoire érythréenne sur le Tour de France ? On suivra tout ça avec évidemment Bertrand Eclair qui nous accompagne sur la route du Tour de France et qui nous permet d'assurer ses directs dans Mondial Sport et ailleurs, Hugo.
Merci à Bertrand Eclair. Et puisqu'on parle de technique, eh bien, si les Français brillent en Italie comme Bertrand ou sur les routes, eh bien, un Italien brille aux manettes de Mondial Sport en France, à Paris, Claude Battista. Merci beaucoup à notre réalisateur du week-end. Mondial Sport, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, Radio Foot International avec en fil rouge France-Belgique, 8e de finale de l'Euro. Rendez-vous à 16h10, temps universel. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, Nicolas Brousse. Et puis à 17h45, temps universel, 19h45, heure de Paris, le début de notre édition spéciale consacrée au premier tour des élections législatives. Bonne soirée sur RFI.
RFI.